Bonsoir et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors ce soir, un épisode dédié à Fast Responder, un outil qui permet de faire du fast forensic, développé par le CERT Sequoia. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons Sébastien Larigné qui a réalisé l'architecture de cet outil. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Nicolas Prigent.
Bonsoir.
Éric Leblond.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Sébastien, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast.
Merci à vous de m'avoir invité.
Alors Fast Responder, un outil qui permet de faire du fast forensic. Alors est-ce que tu peux nous briefer un petit peu sur la différence entre le forensic et le fast forensic?
Ouais, alors comme on explique un peu dans les présentations et les confs qu'on a déjà faites, en fait, il y avait un peu le forensic à la papa où on faisait des prises d'images disques et on mettait ça dans une chronologie, dans un gros fichier Excel. Et aujourd'hui, avec le volume de données et le temps que ça prend au niveau de l'acquisition, c'est juste pas possible. Donc nous, on a préféré se concentrer sur des données un peu plus particulières sur le disque, et notamment en live, en fait, l'OS tourne et on va exécuter un petit programme où on va collecter des données et après on va analyser ces différentes données.
C'est du Excel dans le cloud alors?
C'est du Excel dans le cloud, ouais, un peu. C'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée. Et surtout le but derrière, c'est de savoir rapidement si une machine est compromise et de comprendre si après compromission, il y a eu pivot ou pas et infection dans le reste du réseau.
Alors quand tu parles de pivot, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs?
Ouais, alors
ça leur casser les dents avec des termes techniques.
Alors la notion de pivot, en fait, dans une attaque, c'est le moment où c'est après exploitation soit d'une vulnérabilité, soit de l'exécution d'un programme, qui va permettre à l'attaquant, en fait, de se propager dans le réseau à partir de la première machine qu'il a compromise. L'idée c'est de rebondir comme ça dans le réseau jusqu'à aller à la donnée ou au service qui l'intéresse au sein du réseau pour pouvoir après soit l'exfiltrer, soit se servir de ce service pour manipuler des données ou se servir encore de ce service pour rebondir vers une autre société ou une filiale de la société en question.
Vous êtes labellisé officiellement pour répondre aux incidents ou...
Non, on n'est pas pris.
Vous n'êtes pas pris.
Non, on n'est pas pris
au pris.
On n'est pas pris à prise et pour revenir à la question là vite fait l'expérimentation a pas démarré. Je sais qu'ils ont shortlisté les différentes sociétés et à la différence de Passy, ils devront repasser la certification après la phase de test.
Okay. Bon, c'est un aparté, hein. ça n'a rien à voir avec l'outil, mais ouais. Ceci dit, c'est pas totalement déconnant comme question, parce que il y a quand même une histoire. Tu sais, tout le monde utilise Ancase, par exemple.
Ouais.
Et il y a une légende comme quoi c'est le seul outil qui ressort devant les tribunaux et autres.
Ouais.
Est-ce que l'ANSI va labelliser des outils de forensic ou de...
Alors sur la partie justement sur la partie collecte, il y a eu un appel à projet qui a été fait sur justement l'ANSI pour justement un peu uniformiser ce type d'outil puisque en gros tout le monde développe un peu son outil dans son coin. Nous on a développé Fast Responder. Par exemple nos confrères du CERT Solucom, ils ont un outil qui s'appelle Certitude. Je sais que l'ANSI a son propre outil aussi. La CERT Société Générale a développé un outil qui s'appelle Kraken qui sert à aller vérifier certaines données sur les postes pour voir s'il y a de la compromission. Donc là pour le coup, ils veulent un peu uniformiser les choses et surtout je pense que l'idée qu'ils ont derrière la tête, c'est de faire tourner ça un peu sur tout type de plateforme comme du SCADA.
Ah oui, c'est vrai qu'ils ont ajouté plein de modules dans sur Rigetta récemment, ouais, pour faire des protocoles SCADA.
Voilà. Donc l'idée, ça serait pouvoir faire de la collecte de manière décentralisée et après recentraliser la donnée sur différents types de plateformes.
Entre la détection d'intrusion et la collecte à distance, enfin, ce que tu appelles le fast forensics, c'est quand même pas tout à fait la même chose, non?
Non, parce qu'en fait, là, le principe de, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner un petit logiciel, soit un logiciel, soit un agent, un logiciel en standalone, sur une machine qui est up, et on va aller récupérer des données qui sont entre guillemets propres à une compromission de machine. Ça peut être des clés de registre, ça va être des logs particuliers, ça va être des exés dans les, comment on appelle ça, dans les fichiers temporaires, ce genre de choses quoi. Donc ouais, non, on n'est pas du tout sur de la détection d'intrusion de type comme pourrait le faire un IDS où on collecte de la donnée et après cette donnée va être analysée en fait.
Tu parles d'agent, donc tu peux présenter un peu comment ça marche ton outil?
Alors nous c'est pas un, nous on n'est pas parti de ce mode-là, créer un système en mode agent pour une raison qui est à mon enfin qui est enfin qu'on a le parti pris qu'on a fait dès le départ, c'est qu'on voulait pas créer un botnet au sein de la société. C'est-à-dire que comme il faut vraiment des droits élevés pour pouvoir exécuter ce genre d'outil. Si jamais dans le cadre d'une compromission massive et surtout sophistiquée, le système se fait embarquer, bah l'attaquant a carrément la main mise sur l'ensemble du réseau. Donc nous, en fait, l'idée c'était de pouvoir déployer l'exécutable en standalone via GPO ou via clé USB sur des ordinateurs qui sont pas forcément connectés au réseau de l'entreprise, et après récupérer ces données soit sur un partage, soit sur la clé USB en question.
J'ai juste pas compris comment tu combines GPO et pas connecté au réseau d'entreprise.
Non, alors justement, ouais, il y a deux modes. Il y a soit en GPO quand c'est connecté, et si c'est pas connecté, tu utilises clé USB ou autre support amovible à ta disposition en fait.
Je vais faire mon troller, mais le but de la compromission, c'est pas de devenir admin du domaine, donc de pouvoir contrôler les GPO.
Ouais, ça peut. Alors, effectivement, ça peut. Après, si tu commences à pas pouvoir déployer un exé via une GPO, c'est que t'as d'autres soucis.
Non, mon point est plus. Est-ce que tu peux être sûr que c'est le bon exé que tu déploies?
Alors ça, pour le coup, oui, on peut parce qu'en fait, on a on vérifie à l'exécution, on vérifie qu'on est que notre exé a pas été modifié à l'arrivée sur le système en fait.
D'accord.
Donc ça oui, et donc pour ce faire en fait on a rajouté des couches. Je vais rentrer un peu plus dans l'architecture du logiciel en fait. Toute la partie décodage des données sur le système d'exploitation en fait est codé en Python et ce qu'on a fait c'est qu'on a réécrit une couche d'un logiciel qui s'appelle PyInstaller qui permet de prendre le code Python et le transformer en exécutable et en modifiant c'est comme un packer en fait hein, ça marche exactement comme un packer de malware et on va vérifier en fait au moment de l'exécution que nos sources ont pas été modifiées.
Et comment tu vérifies ça? Tu as une clé publique, un truc comme ça? Enfin, c'est quoi le principe?
Ouais, en fait, alors ce qui se passe, c'est que le packer trimballe le code compilé et on vérifie le hash de chaque source qu'on a déployé sur le poste avant de s'exécuter.
Et les gens, ils sont censés déployer l'agent sous forme binaire ou ils sont censés régénérer l'agent à partir de source?
Alors nous, c'est pas un agent. L'exé, ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fournit l'exé, on le compile nous sur une plateforme safe. On est sûr, enfin qu'on maîtrise et on le compile jamais sur l'environnement du client. C'est des choses qui se passent à côté et on est sûr de ce qu'on va pouvoir déployer.
Ok, donc vous incitez les gens à déployer l'agent sous forme binaire.
Et pas ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, à terme, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre au. Parce que en fait, le module va collecter différentes données, des clés de registre, les event logs, des contextes d'exécution au niveau du. On va vérifier les handles, par exemple, qui sont exécutés pour voir s'il y a pas des DLL qui seraient utilisés alors qu'elles ne devraient pas, enfin ce genre de choses, et permettre en fait à l'utilisateur d'avoir l'exé le plus minimal possible, donc une espèce de fabrique à exé en fait qui sera disponible via Internet où il pourra télécharger, enfin créer son propre exécutable en fonction des modules qu'il aura choisi. Parce que derrière aussi, ce qu'on a rajouté, c'est l'intégration avec des règles Yara pour essayer de détecter ce qu'on va appeler des indicateurs de compromission directement sur le poste de travail.
Alors, tu peux expliquer ça, comment ça marche? En gros, est-ce que l'exé, il a des ressources et il embarque les règles à vérifier localement? Ou est-ce que, au contraire, il se contente juste de faire des hash et de remonter à un serveur central et toute l'intelligence est au serveur central?
Alors, on a les deux parties en fait. On a la partie où on va décoder par exemple, les clés de registre quand l'ordinateur se met en route, quand les logiciels se mettent en route en même temps que le système d'exploitation. Donc, ça va remonter au niveau du serveur central. On a une partie où on va calculer des hash sur des endroits particuliers du système d'exploitation. Ça, c'est pareil, ça peut remonter sur le serveur central. On peut aussi collecter ces fichiers et les faire remonter en même temps pour une post-analyse. Ça évite en fait de le comment de laisser de trop comment qu'il y ait trop d'exécutions sur la machine qui est en train de se faire analyser. Et par contre, là où on peut embarquer de l'intelligence, donc des indicateurs de compromission, c'est des règles Yara qui vont être des petits fichiers de texte et qui vont être intégrés à l'exécutable en fait. Au moment où l'exécutable va se lancer, le programme va aller les lire et va les regarder si ces signatures-là correspondent à des données qu'il va rencontrer sur le système d'exploitation.
Donc, il y a une partie serveur.
Il y a une partie serveur, ouais. Il y a une partie qu'on va appeler intelligence en fait, où on va typiquement si on a des hash de fichiers par exemple, on va utiliser l'API VirusTotal pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont déjà analysé ces hash ou si ça n'a pas été déjà vu quelque part. Pareil pour les noms de domaine, ce genre de en Buzz Bingo, on va appeler ça la threat intel.
Attention.
Voilà, je savais que ça allait te plaire. Et donc, l'idée, c'est de se constituer comme ça des bases offline ou d'aller interroger des bases online pour comment confronter les données qu'on remonte.
Mais alors du coup, au niveau serveur, c'est architecturé comment? Parce que tu imagines sur un parc d'entreprise, tu déploies une GPO sur 10 000 postes. Il faut quand même un truc qui tient la route derrière.
Ouais, tout à fait. C'est pour ça que là, alors ça c'est pas la partie open source, c'est plus la partie entreprise entre guillemets, où comment on a dimension, comment on a dimensionné justement des serveurs pour pouvoir analyser les données qui vont être remontées. Alors dans un premier les données analysées si on utilise le logiciel de manière simple, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs modes, en fait, tu peux collecter plusieurs types de données. Mais le premier modèle d'exécution, il y a quelques centaines de KO à analyser. Donc, c'est pas. Même si tu as un millier de machines à regarder, c'est pas. En termes d'exécution, ça va, c'est pas déconnant. Par contre, là où ça va devenir un peu plus touchy, c'est si tu dois commencer à remonter les hash de fichiers ou même à analyser les fichiers sur le serveur central. Là, ça commence à devenir un peu plus conséquent. Et c'est pour ça qu'on a dimensionné en fait, on a dimensionné des serveurs pour pouvoir le faire.
Ouais, c'est plus au niveau du choix technologique qu'au niveau fonctionnement, parce que
Ouais.
si l'architecture elle scale
Ouais.
de
Bah pour,
manière
alors,
élastique, comme on dit.
voilà, bah c'est pour ça qu'on a utilisé des technos pour tout ce qui est indexation de données, ça va être du Elasticsearch. Et pour toute la partie interface web, enfin web service plus exactement, on utilise Flask, qui est bien plus scalable et bien plus souple qu'un Django où on va tout embarquer et, avec la pluie et le reste des vulnérabilités qui vont avec.
T'as pas 200 personnes qui se connectent à ton interface web, pourquoi tu veux scaler sur l'interface web?
Non, sur la partie web service, remontée de données en fait.
Suivant la. Tu remontes les données depuis les postes clients en web service, d'accord, ok.
Voilà, c'est ça.
Okay. Tu peux avoir un autre problème, c'est quand tu as des filiales qui sont pas très bien connectées.
Ouais.
Donc tu veux déployer un serveur localement dans la filiale et pouvoir faire tes recherches à distance, par exemple.
Ça c'est pas trop ce qu'on préconise. On est en train de mettre en place la notion de drop zone en fait, où les gens vont dropper leur fichier et ça va synchroniser justement à notre serveur central qui là justement va être dans le cloud, comme disait Eric, et pour pouvoir analyser les données a posteriori.
Donc l'idée c'est les gens lancent le soft, ça génère tout un tas de fichiers qui sont ensuite renvoyés dans une drop zone.
Exactement. Et pour chaque on met en évidence les données qui auraient été déjà vues soit par une source publique soit par des analyses qu'on aurait déjà faites sur d'autres clients en fait.
Bon, alors tu vas nous parler de tes clients, c'est quoi le retour terrain?
On a fait, alors je vais pas parler des clients en tant que tel, mais on a fait de la réponse à incident sur le plus gros parc qu'on a fait. Il y avait une centaine de machines. Et non, on a eu de bons résultats et justement on a pu mitiger assez rapidement le souci, puisque comme on a pas après analyse et bon, parce que ça de toute façon tu peux pas y couper, une fois que on avait trouvé l'exécutable et le pivot, on l'a reversé, hein. C'est la phase obligatoire pour comprendre comment l'attaquant pivote. Mais une fois qu'on avait ça et qu'on avait les indices de compromission associés, bon bah on n'avait plus qu'à chercher ces indices de compromission sur les machines en question, quoi. Donc ne remonter que les données de type soit clé de registre ou soit exécutable logé dans un répertoire en particulier. Donc ouais, non, on a c'est l'outil, on l'utilise aussi nous en tant que il peut être utilisé par le client directement, mais nous on l'utilise en tant qu'incident handler et pareil, ça, enfin, pour éviter de passer pour des buses, faut qu'il fonctionne, quoi, parce que si tu lances ton outil et qu'il plante tout, t'as l'air un peu d'un neuneu, quoi.
et il fonctionne ton outil?
Ouais, il fonctionne pas mal. La collecte fonctionne pas mal et on a des bons résultats.
Moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir toujours des conneries. Enfin, on va dire que je suis toujours négatif. Hein, comme
non, mais...
Entre les antivirus qui vont bloquer tout le monde parce qu'ils trouvent qu'il y a un comportement suspect,
SP0
qui ne sont pas supportés par le P2EXE, etc. Enfin,
ouais. Alors, ça c'est déjà... Alors, le coup du... On a fait mieux parce qu'on a fait des tests aussi parce qu'on voudrait embarquer un outil de chez toi, Nico, qui s'appelle Recall, et on a fait des tests et on a eu sur une plateforme qui était d'Urson, on a eu un écran bleu parce qu'au moment où on a monté le driver du pour faire l'acquisition de la mémoire, l'outil qui durcissait le système d'exploitation a pas du tout aimé et ça s'est très mal passé. Donc ouais, de temps en temps ça arrive. Pareil, on a Kaspersky qui nous a posé des problèmes au départ quand on commençait à jardiner dans les event logs. Donc ce qu'on fait, c'est que on met l'exécutable en liste blanche sur l'antivirus et ça se passe très bien soit ça se passe comme avec les trois quarts des antivirus, c'est que tu passes en dessous sans qu'ils se rendent compte que tu es en train de t'exécuter sur la machine, quoi. Parce que dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Hein. On passe en dessous.
Ah, c'est quand même un peu risqué parce que, enfin, je veux dire, surtout si tu incites tes clients à utiliser la version binaire de l'outil, n'importe quel éditeur antivirus peut juste mettre le CRC32 de ton outil dans sa base de signature et c'est réglé.
Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on avait commencé à, on avait commencé justement à prospecter pour passer l'outil en liste blanche. Avec tous les problèmes que ça peut comporter, évidemment.
Il faut pas que tu le bides à chaque fois, alors.
Là, non. Là, pour le coup, tu peux pas le builder à chaque fois. Ou sinon, à chaque fois, tu es obligé de. Et notamment, ça pose des problèmes pas possibles sur les montées de version, les trucs comme ça.
Puis ça pose un autre problème, c'est que si jamais tu collectes des informations qui sont un peu intéressantes, effectivement, même pour un attaquant aussi,
Ouais.
après, voilà, enfin, faut juste qu'il déroute ton adresse IP, parce que si ton adresse IP en dur, c'est chaud, mais sinon, voilà, quoi. Il y a un risque là-dessus, je pense. Enfin, dans la gestion de la conf, effectivement, ça peut être gênant.
Ouais, tout à fait. Enfin, c'est pour ça. Non, c'est. Mais pour l'instant, on n'a pas eu trop de problèmes avec les antivirus. Mais c'est effectivement un cas qui s'est posé. Ça nous est arrivé quelques fois.
Et est-ce que vous avez des problèmes avec les malwares?
Pour l'instant, non. Parce que les types de données qu'on collecte, en fait, c'est un peu bizarre. Même les rootkits, ça les intéresse pas. Et ce qui fait qu'on les trouve. Enfin, là, j'ai encore lu récemment un papier sur GoodKit où on regardait où ils se logeaient. Et typiquement, ça fait partie des clés de registre qu'on récupère. Et ces clés de registre-là sont pas comment, le puisqu'on tourne en live, donc normalement ils pourraient contourner les appels et faire en sorte qu'on collecte pas ce type de données. Mais non, aujourd'hui ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Donc non, on n'a pas trop de soucis là-dessus. C'est pareil, on récupère aussi. On s'est concentré exclusivement sur Windows et on récupère le journal du système de fichiers qui s'appelle la MFT. En termes plus techniques. Et pareil, quand on récupère la MFT et qu'on analyse ce qui a été écrit sur le disque, idem, les malwares un peu sophistiqués ne vont pas aller jardiner là-dedans, quoi. Les seuls cas qu'on a vus, c'est des cas où la MFT était vide. Alors là, par contre, si la MFT est vide, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre sur la machine.
Et est-ce que vous utilisez quand même des techniques un peu particulières? Tu vois, la base de registre, par exemple, vous la collectez
Ouais.
comment? Vous
Euh,
faites
ce qu'on
un reg backup, vous faites un WMI, vous faites.
Ouais, alors jusqu'à pas longtemps, parce que ça va changer en fait. On utilise sur les versions de Windows Vista à plus, on utilise les shadow copy, où on va aller carrément ouvrir le NTUserdata. Et on va utiliser des libs qui sont éprouvés hein, pour récupérer les différentes clés. Par contre, le décodage, c'est nous qui le faisons. Et pour les XP, alors ça, là pour le coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a pas. Enfin, souvent, il n'y a pas de. Si le service n'est pas démarré, Shadow Copy, ça ne marche pas. Donc, on va utiliser les API que nous offre le système d'exploitation. Et là, ça a ses limites, puisque si le rootkit ou le malware qui est installé a hooké proprement les fonctions, a priori, on devrait passer à côté. Mais pour avoir fait pas mal de tests, parce qu'on ce qu'on fait, c'est qu'on récupère pas mal de RAT, des trucs comme ça, comme PlugX ou autre, et on les met sur des VM et on regarde justement si on arrive à avoir des résultats. Et pour le coup, ouais, on arrive à collecter des choses intéressantes.
Quand t'as encore des gens qui sont sous XP et qui pensent faire la réponse sur incident?
Bah ouais, malheureusement. Malheureusement. C'est de moins en moins, mais. Et donc, ouais, pour la petite histoire, en fait, ce qu'on a fait là récemment, et ça va bientôt être intégré à la fois à la partie open source et la partie entre guillemets plus pro, c'est qu'on a compilé Sluskit et on attaque le fichier, le disque directement sans passer par le driver NTFS du système d'exploitation. Donc là, pour aller ouvrir les fichiers, on n'a pas besoin de shadow copy ni rien, on va directement ouvrir les fichiers en passant en dessous du driver NTFS.
Tu peux en dire plus sur cette, cette partie open source, closed source, enfin je sais pas, c'est quoi la licence, c'est quoi le modèle de commercialisation, la communauté
Ouais, alors on a décorrélé la partie ce qu'on appelle chez nous le file catcher, c'est le système qui va aller récupérer des fichiers particuliers, des exe, des PDF, des JS. Ça on l'a pas rendu open source. Et tout le reste, par contre, toute la collecte de l'ensemble des artefacts, les clés de registre, les event logs, les handles, les DLL qui sont loadés par les exécutables, tout ça, ça c'est open source. Et tout ce qui est tout ce qui est développé open source reste, enfin, ou qui contribue, ou que les gens contribuent au développement. Là, j'ai des demandes de contribution là depuis quelques temps. Alors ça restera complètement open source et ça continuera sa vie en tant que tel, en tant que logiciel open source.
Et open source sous quelle licence?
On est sur GPL V3, si je ne raconte pas de bêtises.
Mais alors, ça veut dire que c'est les moteurs pour faire tout ça qui sont libres, ou tu as aussi toutes les bases d'informations, les clés de registre, que vous allez chercher, les choses comme ça, tout ça c'est aussi en open source?
Non, toutes les données elles sont pas open source, c'est un peu le trésor de guerre.
Donc c'est bien ce que je me disais.
ça reste. Non, ce qui est open source, c'est la manière dont on va décoder les formats en fait.
Mmh, ok.
Ça a deux, à mon sens, hein, ça a deux vertus, c'est que comme on s'est appuyé sur des méthodos et des librairies qui existaient déjà, c'est normal de le rendre open source ce système-là. Et deuxièmement, si jamais on s'est planté sur la manière dont on décode les choses, on espère, bon, c'est qu'un espoir, hein, mais que la communauté qui fait du forensic et de la réponse à incident, nous disait, les gars, là, vous êtes plantés et ça serait bien de corriger. Bon, ça, c'est mon côté bisounours. Hein. mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi.
Mais alors justement, là-dessus, parce qu'on est parti un peu sur le sujet bien en tête, mais il y a quand même plein de choses que tu fais qui me font beaucoup penser, par exemple, à des IDS d'autres. Enfin, Nico a déjà un peu évoqué le sujet, mais il y a pas mal de choses où finalement, t'es pratiquement, si jamais ton logiciel tourne, enfin, là, ce que tu fais vraiment, c'est que ton logiciel, tu l'envoies, GPO clé, et il se déploie, et il renvoie tout. Et après, c'est fini. Ouais. Et il disparaît, il l'installe proprement, et c'est fini.
Ouais, c'est ça, exactement.
Vous avez envisagé, justement, de transformer ça éventuellement en sonde, c'est pas le même métier, mais si effectivement vous avez toutes ces bases d'informations-là, donc votre fameux trésor de guerre derrière, ça pourrait être un truc qui ne serait pas. Enfin, vous
alors, vous pensez ou pas ou... Pour la partie sonde réseau, en fait, l'idée c'est de s'appuyer sur IKATA pour justement rajouter une partie probe réseau pour pouvoir corréler les signatures sur IKATA qui sont levées via les alertes à la base de guerre qu'on aurait. Ça c'est en cours de développement en ce moment. Et ça pour le coup ça va être aussi open source puisqu'on se base sur un framework qui s'appelle Malcolm qui a été développé par Thomas Chopitea du CRTG et l'idée c'est de reprendre les bases d'intelligence que lui a agrégées au niveau de son système et d'en rajouter d'autres et de pouvoir déployer justement du sur IKATA et loguer les métadonnées et les faire remonter au serveur central et après interroger notre base de trésor de guerre. Mais ça, cette partie déploiement et tout restera open source.
Ok.
Nous parler un peu de la concurrence. Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres?
Alors, qu'est-ce qu'on fait mieux que les autres? En fait, pour avoir discuté avec pas mal de confrères, on fait pas mieux, on fait différent. Dans le sens où, par exemple, si on prend l'outil de certitude du CertSolid.com, eux, ils ont une approche différente et surtout, ils vont pas chercher les mêmes types de données que nous, en fait. Et on s'est rendu compte que les deux outils étaient complémentaires. C'est la même chose pour le Kraken du CertSG. C'est la même chose. Eux, ils ont plus réfléchi à la manière de faire remonter l'information avec un serveur central et aller chercher quelques données comme des haches de fichiers, ce genre de choses, mais pas forcément le même collecter et décoder les mêmes clés par exemple ou remonter les event logs d'une machine. Donc et après il y a des outils un peu plus comme Google Rapid Response qui sont un peu plus lourds et un peu plus qui eux mélangent. Pour le coup, ils mélangent tout ça. Et aujourd'hui, c'est en open source, c'est peut-être l'outil le plus complet pour ce genre de choses. Surtout que, enfin, de ce que j'ai compris, ils veulent mixer ça avec de l'analyse mémoire temps réel avec Recall et faire de la timeline avec Plasso. Donc ouais, non, je pense qu'au niveau open source, c'est eux qui seront les mieux capés et les mieux armés là pour le coup.
Et de ce côté-là, enfin ça c'est la concurrence qui fait les choses un petit peu pareilles. Il y a toute une partie forensique, on en parlait dans un épisode précédent. Ouais. C'était sur effectivement où là les gens s'attaquent juste au disque quoi. Ils sortent un disque, enfin la bonne vieille méthode. En gros, j'arrache la prise, je sors le disque, une image, et je vais jouer avec. Tu sens une complémentarité profonde ou c'est quoi ta position là-dessus?
Ouais, alors. En fait, il y a des fois, tu peux pas y couper de passer à ce mode-là. Typiquement, t'as détecté que la machine, effectivement, elle avait été compromise mais t'arrives pas, par exemple, à récupérer l'exécutable. Bah, tu vas pas avoir 36 solutions, quoi. Il va falloir un moment éteindre la machine et repartir à l'ancienne. Donc il y a des fois ou même pour comprendre la chronologie de l'attaque, tu vas être obligé de repasser par là. Non, les deux approches à mon sens sont complémentaires, même s'il y en a une à mon sens qui va de plus en plus disparaître, c'est l'analyse pure de disque. Puisque quand par exemple on va prendre un serveur de fichiers qui fait plus de 15 teras, nous typiquement on n'a pas les ressources pour pouvoir stocker autant de données, donc c'est juste pas possible quoi. Et c'est pour ça que cette partie là je pense petit à petit va vraiment être spécifique à certains postes de travail, des VIP, des trucs comme ça, mais dans la vraie vie ça va tendre à pas à disparaître mais à décroître pour justement de l'analyse live qui va plus vite et on a une réponse plus rapidement, à savoir est-ce qu'on déclenche ou pas une crise parce que le système d'information est compromis quoi. Parce que c'est le vrai enjeu là-dedans, il est là, est-ce qu'on lève le drapeau rouge ou pas quoi, parce qu'il y a compromission.
Et on avait déjà fait un épisode justement sur qu'est-ce que c'était que le forensic et à l'époque donc c'était avec les gens d'Arxis et Eric Fressinet ils insistaient sur le fait que le forensic c'était de l'investigation légale, ça avait vocation à être présenté devant un tribunal. Toi, si tu fais pas de copie quelque part il peut pas y avoir de contre-expertise, il y a aucune trace de ce qui a été fait quoi.
C'est un des alors ça peut si tu es capable de reproduire à l'identique ce que t'as collecté en fait.
Ouais, mais quand tu collectes sur un système live, tu pourras jamais reproduire. Tu vois, la running process.
Ça devient compliqué. C'est pour ça que, alors là, je vais me fâcher justement avec Eric et je pense que la loi là-dessus est mal faite et qu'elle devrait changer en fait. Ça devrait bouger parce que par exemple, si tu prends les attaques tout en mémoire. Ça fait un petit moment que ça existe. Je crois qu'il y avait même eu Astic, c'est Samuel Dralet qui avait présenté ça il y a quelques années. Enfin voilà, c'est pas quelque chose de, c'est pas sorti de l'imagination. Là, t'as aucune empreinte sur le disque. Ça n'empêche pas que t'as une compromission. Donc, est-ce que tu te pointes avec ton homme de RAM devant le juge en disant Monsieur le juge, j'ai le virus. Enfin, je pense que ça doit changer. Enfin, cette partie-là doit changer quoi.
Oui, mais en fait,
elle n'est pas adaptée.
L'idée, c'est que tu fais, t'arrives sur la machine, une copie de RAM avec Win32DD ou n'importe quoi. Ensuite, tu débranches la machine et tu fais une copie de disque. Et dans ce cas-là, effectivement, bon, c'est pas l'acquisition, tu fais des dégâts, etc. Ouais. Mais après, les fichiers, tu peux les sceller. Tu peux en faire une deuxième copie et faire rejouer. Voilà.
Je suis d'accord. Mais ça c'est à des termes. C'est pour ça que nous, la première question qu'on pose, c'est est-ce que les gens veulent porter pop ou pas, quoi. Parce que la procédure ne va pas être la même.
Parce que l'objectif n'est pas le même, en fait.
C'est ça.
D'un côté, il y a un objectif légal et de l'autre côté, il y a un objectif de réparation. Il s'agit de caractériser et de décider, on va mettre fin à ce truc-là, quoi.
Voilà, c'est ça. Et d'éradication sur un système complet.
J'aime bien éradication. Beaucoup éradication.
Bah ouais, c'est ça. On veut tuer les rats, exactement. Mais enfin, parce que en termes, enfin, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, le temps, quand t'as une compromission comme ça, tu sais pas à quelle vitesse l'attaquant pivote ou même le crimeur de base pivote dans ton réseau, et donc ouais, faut arriver à couper court le plus rapidement possible à ce qui est en train de se passer, quoi. Donc si t'es obligé à chaque fois de faire des prises d'images disques et de suivre ça dans un réseau, c'est juste impossible. C'est juste impossible.
Écoute, j'ai lu dans un magazine que, au contraire, il fallait faire de la contre-intelligence et prendre l'initiative sur l'attaquant et que justement couper le plus tôt possible, c'était pas forcément la solution, quoi.
Ça dépend de ce que tu cherches. Si c'est de faire de l'attribution et comme tout le monde essaye de faire en ce moment, essayer de comprendre quel est l'attaquant que tu as en face de toi, ouais, effectivement, ça peut être quelque chose de valable. Le problème, c'est que si le gars il est en train de sortir les plans du dernier réacteur nucléaire pour citer personne, ça commence à poser des problèmes, quoi. Faut peut-être couper là. Mais le truc, c'est que tant que t'as pas analysé et tant que t'as pas déclenché, tant que t'as pas déclenché vraiment la crise entre guillemets, de toute façon, t'auras pas une vision d'ensemble sur ce que fait l'attaquant. Donc ouais, c'est bien de savoir où l'attaquant se connecte, qui est derrière, mais faut être sûr que il est pas en train d'exfiltrer les données, quoi.
Oui, même s'il exfiltre des données, tu peux quand même faire un assessment de la valeur des données qu'il est en train d'exfiltrer.
Ouais, c'est sûr. Mais ça, après, c'est au business de dire oui, on veut bien que nos données partent dans la nature ou pas, quoi.
Enfin, faut quand même avoir une cellule de crise qui est hyper prête, quoi. Parce que souvent, on se retrouve avec des choses qui sont là depuis un sacré bout de temps. Personne s'en est rendu compte, mais à partir du moment que quelqu'un s'en rend compte, on essaiera peut-être de faire quelque chose. Alors, vous comprenez, faut pas toucher parce que. On aimerait bien savoir qui c'est, quoi. Mais prends les dés, balance, et puis tu verras bien dans l'attribution, quoi.
Mais ça reste compliqué dans le sens où effectivement, pendant des années, dans les réseaux, on a fait confiance aux firewalls et aux antivirus sans forcément mettre d'analystes derrière. Et aujourd'hui, on est en train d'expliquer aux gens que finalement, ça serait pas mal d'avoir des analystes et de regarder ce qui se passe. Donc il y a une espèce de marche arrière qui est en train de se faire, mais bon, avec toute l'inertie que le système a engendré, qui fait qu'aujourd'hui, ouais, effectivement, c'est un peu compliqué.
Mais bon, c'est quoi je sais pas si vous avez beaucoup d'expérience en incident response, mais c'est quoi la moyenne de temps au bout duquel les clients se rendent compte qu'ils ont été piratés? Et est-ce que les attaques sont vraiment advanced?
Les attaques sont pas forcément advanced dans le sens où c'est pas le dernier typiquement on a eu un cas où l'attaquant utilisait PSExec, mais il s'est même pas emmerdé, il l'a pris tel quel. Tu faisais un hash du fichier, tu le mettais dans Virus Total et VT te disait que c'était PSExec. Mais par contre, c'était bien foutu. Ils avaient utilisé des exés auto-extractibles et tout. Et franchement, les niveaux de stage étaient bien pensés pour le coup. Mais rien de, enfin, c'était pas le dernier rootkit de la mort qui tue. Comme chaque semaine peut sortir certains antivirus. Et sinon, on a plus été appelé sur du crimware. Donc, genre exploit kit, ce genre de choses.
Ransomware ou pas?
Ouais, mais de toute façon, le ransomware, tu peux rien faire. Donc, à part lui dire qu'il faut qu'il teste son système de backup, souvent, tu peux pas faire. Typiquement, CryptoLocker, tu pouvais rien y faire. Donc, mais non, ransomware, on n'a pas eu. Mais non, non, mais typiquement, un nucléaire pack qu'embarque un navigateur et qui commence à exfiltrer des données parce que voilà, on ne sait jamais, ça peut être intéressant d'exfiltrer ce genre de données. Mais qui sont des données d'ailleurs utilisateurs, et dans les trois quarts des cas, t'as même pas d'élévation de privilèges sur le poste infecté. C'est juste de la data user qui intéresse la personne qui a mis ça en place, et voilà quoi. Donc oui, il y a de l'advance, mais c'est pas, enfin, nous, de ce qu'on a pu voir, c'est jamais ouf quoi. Après, j'imagine que les gens de l'agence ou d'autres ont vu des choses plus sophistiquées et plus entre guillemets étatiques, mais bon. Ça reste comment? De ce qu'on voit nous dans les rapports qui sortent, ça reste prenable quoi. C'est pas non plus fou.
En même temps, si ça marche, on va pas se compliquer. On va pas utiliser des super 0D pour.
Ouais, non, mais il y a pas beaucoup de sens effectivement à cramer un OD pour juste exfiltrer de la data user quoi. Après, tout dépend aussi de ce que tu cherches, derrière. Si c'est par exemple pour un point d'eau, parce que tu cherches une population particulière, ouais, là, ça va peut-être encore avoir du sens, et encore. Ou alors vraiment tu veux t'infiltrer dans un système, un peu à la Stuxnet quoi, mais ça arrive pas tous les matins.
Est-ce que tu as eu du targeté ou pas?
Ouais, on a déjà eu du targeté, ouais. Et là, pour le coup, tu fais appel aux autres CR, t'essayes de voir s'il n'y a pas d'autres clients de la même branche qui ont de la même branche de métier qui a été touché, ce genre de choses, pour justement voir s'ils sont tout seuls ou pas, quoi.
Ah,
Parce
mais dis pas
que.
ça. Ah, dis pas ça. Après, je voulais te poser la question. Est-ce que vous avez prévu une interaction avec MISP?
Oui, on a prévu une interaction avec MISP, tout à fait. Et il y a même certains incidents qu'on décontextualise et qu'on met dans MISP, ouais.
Vous pouvez préciser, MISP?
Ah oui, MISP, c'est une plateforme qui a été développée par le alors j'espère pas raconter de bêtises. Du CERT-LU, ouais, avec l'OTAN et le CERT militaire belge, en fait. C'est plusieurs CERT qui se sont mis dans la main pour développer ce genre de choses. Et en gros, c'est de l'échange d'informations sur des malwares et sur des attaques qui ont pu être observées soit en réponse à incidents, soit dans des rapports en source ouverte, comme peuvent faire les sociétés d'antivirus ou des personnes comme Citizen Lab ou autre, quoi. Et l'idée, c'est de commencer à s'échanger de l'information pour aller le plus rapidement possible en termes de bah, est-ce que c'est targeté ou pas, et est-ce que ça a été déjà vu ou pas quoi.
Ouais, dans MISP, en fait, tu as une partie échange qui est vraiment le cœur du système. Donc, tu
Voilà.
vas voir, par exemple, si Sébastien décide de publier un indicateur, l'indicateur, il va être publié dans un cercle de confiance, et l'ensemble des gens qui appartiennent à ce cercle de confiance vont pouvoir vérifier si effectivement, les indicateurs qui ont été publiés par Sébastien ben, s'appliquent chez eux, et s'ils peuvent le trouver sur leur clé de registre, sur leur IDS, ainsi de suite. Hein.
Voilà, c'est vraiment une plateforme d'échange entre et tu vois, comme disait Eric, tu spécifies à qui tu veux échanger les données.
On a fait le tour. Est-ce
Ouais.
que tu peux peut-être illustrer des exemples d'utilisation des différents outils que tu as cités? Donc, par exemple, dans quel cas on va utiliser l'outil du cert Solicom? Dans quel cas on va utiliser le tien? Dans quel cas on va utiliser Kraken?
Alors, bon, là je vais un peu ma... bon, je connais un peu, mais sous couvert, hein, de sous couvert de comment de pas dire de bêtises. Le les comme je disais, les approches sont différentes. Dans tous les cas, l'idée, c'est quand même que ça s'exécute sur des grands réseaux. Donc ça a été, que ça soit Certitude ou Kraken, même Google Rapid Response, ça a été et notre outil, ça a été pensé pour s'exécuter sur des grands réseaux. Après, ça dépend du type de données que tu veux aller chercher. Si tu veux aller, par exemple, décoder des clés de registre, des choses comme ça, c'est plus notre outil qu'il faut utiliser. Si tu veux exécuter et a posteriori analyser les données. Après, si tu veux lancer des commandes sur des machines spécifiques, je sais pas moi, un netstat ou ce genre de choses, et avoir remonter la donnée très rapidement, c'est plus des outils qu'un outil comme Certitude ou Kraken que tu vas utiliser. Là pour le coup, on s'est vraiment spécialisé dans le décodage et la collecte de données sur le système, alors que les autres sont plus sur du système de commande ou d'aller vérifier un hash particulier ou une règle Yara particulière sur un système.
Donc, par exemple, ton outil servirait dans le cas où on a un doute sur une machine, alors que les autres, donc tu aurais beaucoup plus d'informations de manière automatique, alors que les autres, par exemple, serviraient plus en continu.
Par exemple, tu sois en continu, soit comme tu peux l'exécuter à la demande via le serveur central, tu peux, un SOC par exemple pourrait exécuter les commandes pour vérifier des choses sur les machines. Mais par contre, s'ils veulent, je reviens au principe de la collecte de données, ça reste quand même là où il y a le plus d'infos intéressantes à remonter. Et c'est pour ça que d'exécuter un autre outil à la demande via GPO ou via d'autres systèmes de déploiement, ça peut être du Landesk ou d'autres outils comme ça, tu peux justement avoir une baseline au fur et à mesure du temps que tu fais de la collecte et voir les différences qui vont apparaître sur le système d'exploitation. Chose qui n'est pas forcément possible avec les autres outils. Mmh. Donc voilà, le mieux c'est de mixer un peu, enfin c'est le mix de toutes ces approches, et je pense qu'il y a un SOC un peu mature sur le sujet utilisera
les différents outils
indifférente, pour justement surveiller correctement le parc informatique qu'il est en train de surveiller. En plus de la remontée de log et des alertes qu'il peut y avoir à droite à gauche, des IDS et des antivirus.
On a fait le tour. Vous faites du support un peu sur votre outil ou pas?
Ouais, si les gens posent des issues ou des feature requests, on les prend en compte. Et assez rapidement.
Et sur la partie open source, tu parlais de contribution. Est-ce que tu as besoin de contribution dans un domaine spécifique?
Alors, là récemment, il y a justement, c'est pour ça que je parle d'approche complémentaire. Le CERT Solucom s'est proposé de contribuer à certains, au lieu d'avoir à soit acheter un outil ou soit à le redévelopper from scratch, de contribuer et de nous faire des gentils pull requests sur notre GitHub. Donc c'est en train de prendre forme.
Cette synergie entre les industriels français, c'est beau.
Ouais, on verra bien, hein, mais
c'est pas des industriels, c'est des PME.
C'est ça. Mais après, toute feature request ou issue est corrigée. Et normalement, est corrigé. Bon, les feature requests, faut voir ce que c'est, mais tout ce qui est issues, normalement, dans la semaine, c'est corrigé. Donc, on essaye d'être assez réactif. Et donc, oui, au niveau du type de contributeur aujourd'hui, le prochain, un des prochains challenges qu'on essaye de faire, c'est justement c'est de pouvoir faire de l'analyse mémoire en live sans avoir à dumper la RAM. Donc là, pour le coup, on est allé voir du côté de ce que faisait Google avec Recall. Et l'idée, ça serait de l'intégrer directement à l'outil. Donc là, on a commencé à l'intégrer. Mais si d'autres personnes ont d'autres idées, elles sont les bienvenues.
Et d'autres features comme ça qui vont être développées?
Il va y avoir, bah, comme je disais, on va abandonner l'histoire des shadow copies et on va passer directement par Sluskit. On va rajouter, parce qu'on a commencé à, enfin le dev est là, mais on l'a pas encore committé. Et c'est committé nulle part, hein, que ce soit dans la branche closed source comme dans la branche open source. C'est la partie vérification des certificats des exécutables, parce que là-dedans il y a pas mal d'infos aussi. C'est assez intéressant d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et l'idée, ça serait peut-être à terme d'avoir une espèce de, un peu comme fait Meterpreter de Metasploit, avoir une espèce de console où on pourrait balancer des commandes quand l'exécutable est lancé et pouvoir faire des choses à distance dessus. Ça pourrait être pas mal.
Est-ce que t'as pas peur que ça soit utilisé par les attaquants?
L'idée ça sera de qu'il y ait un secret partagé entre nous et l'exé qu'on est en train d'exécuter. Mais si on le fait de toute façon, ça sera pour le coup ce genre de feature, on les rend open source, comme ça si jamais les gens y voient des vulnérabilités ou des trucs qu'on n'aurait pas vus. Comme ça nous permet de les corriger et ça nous permet de nous améliorer. Et si on voit que c'est utile et que les gens s'en servent, on l'intégrera à la partie closed source au fur et à mesure. L'idée c'est de rajouter les features un peu non conventionnelles en open source et voir si dans la vraie vie ça fonctionne ou pas, quoi. Parce que à terme, c'est quand même ça qui est intéressant, c'est de savoir si ton outil marche dans la vraie vie ou pas.
Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il marche dans la vraie vie.
Ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, on a eu des bons retours. Maintenant, sur des features un peu exotiques comme l'analyse de RAM à chaud, là pour le coup, il faut un banc de test assez grand pour pouvoir justement stabiliser le code et ce qui va être utilisé pour faire l'analyse.
Est-ce que vous recherchez des bêta-testeurs justement?
Oui, on cherche des bêta-testeurs, oui, si les gens veulent. Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne buildait pas les exés, mais maintenant on les build. Donc les gens ont qu'à les télécharger sur le GitHub et directement les tester. Donc oui, on cherche des bêta-testeurs sur différentes plateformes. Et aujourd'hui, on supporte de Windows XP à on a testé sur Windows 8, a priori ça fonctionne. Sur Windows 10, on n'a pas encore testé, donc s'il y a des gens qui veulent l'exécuter sur Windows 10, ils sont les bienvenus. On supporte le 32-bit et le 64-bit, parce qu'il y a encore des ordinateurs exotiques qui marchent sur du 32-bit. Et on supporte aussi normal les différents serveurs jusqu'à 2012. Et c'est uniquement aujourd'hui du Windows. Donc oui, on cherche des contributeurs par contre pour les autres systèmes d'exploitation. Si ça intéresse des gens de proposer de la collecte d'artefacts sur d'autres systèmes d'exploitation, on est preneur.
On a fait le tour. Est-ce que tu vois des choses à ajouter? Chose que tu voudrais dire en conclusion?
Non, je pense avoir fait le tour, expliquer un peu ce qu'on sous-entendait par Fast Forensic et surtout l'outil qu'on a développé. Et ouais, à mon sens, enfin je sais ce que j'expliquais, ce qui serait pas mal, c'est que le droit français change un peu sur la manière de collecter et d'amener des preuves devant un tribunal, parce que les attaques sont un peu décorrélées de de la réalité judiciaire, entre guillemets, quand on doit aller devant un juge. Mais bon, ça, ce que je raconte là n'engage que moi, évidemment.
La fois, tu as beaucoup de clients qui veulent porter plainte ?
Non, globalement non. Sauf s'il y a vraiment perte d'argent parce que un des systèmes qui a été compromis, il y avait de l'argent dessus et que l'argent s'est envolé, quoi.
Mais c'est plus pour des histoires d'assurance en général, non ?
Ouais, c'est ça exactement. C'est pour pouvoir déclencher l'assurance derrière. Donc une des pistes aussi, c'est d'intégrer ce genre d'outils dans des assurances entre guillemets cyber, justement, pour faire de la collecte et que ça soit inclus, il y a une espèce de pack qui soit inclus en même temps que bah tu prends ton assurance, t'as ce genre d'outils, quoi. C'est une des pistes qui est envisageable et possible, et surtout qui permettrait de démocratiser ce type de pratique, et que ça ne soit plus vu comme on s'est fait poncer, donc va falloir qu'on passe à la caisse, quoi. Vu que ça fait partie de ton assurance, ton assurance tu la payes, donc il n'y a pas de raison que voilà, t'es pas l'expertise qui va avec.
Bon, eh bien merci beaucoup Sébastien d'avoir participé à cet épisode.
Ben, merci à vous.
On espère que ce podcast vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouvel épisode.
Salut.
Ciao. Bonne soirée.